France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, rendez-vous avec Isme. Nous revenons sur une idée, un mouvement, une tendance, un isme, un thème pour mieux comprendre les termes, les mots du débat politique d'aujourd'hui.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, premier épisode d'enquête de trotskisme, le mot et la chose.
Nos oppositions de gauche restons fidèlement dévouées à l'international communiste.
Je me trouve dans une grande pièce avec au fond Trotsky qui se lève. J'ai cru que c'était la révolution d'octobre qui se lève à tout d'un coup.
Les Trotskys sont des révolutionnaires. Trotsky était un révolutionnaire et pas un gauchiste.
Au quatrième, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Putain, ce qu'il est
blême. Je pense à l'affirmation prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Eh bien, vous voyez ?
J'ai joué dans un film qui s'appelle Portrait d'une jeune fille en feu. Et aujourd'hui, vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu.
Si vous lisez ce qu'a écrit Trotsky sur le stalinisme, la dégénérescence de l'Union soviétique, vous comprenez, y compris Poutine aujourd'hui.
Le trotskisme, ce mouvement d'extrême gauche, occupe une place singulière dans la politique française. Léon Trotsky, mort assassiné en 1940 au Mexique par un envoyé de Staline, aura théorisé la révolution socialiste internationale, incarné la possibilité, la potentialité, ratée au début des années 20 en Russie, d'une alternative socialiste au communisme autoritaire de l'URSS et au capitalisme triomphant. Le trotskisme devient, au fil des décennies, plus romantique, plus romanesque, une épopée qui a inspiré des générations de jeunes révoltés, utopistes, humanistes, plus ou moins radicaux ou démocrates. En France, en particulier, les trotskismes et les trois grands mouvements qui s'en réclament après la Seconde Guerre mondiale ont été des pouponnières pour la gauche. Les grands courants ont, ou plutôt avaient, leur culture, leurs références, leurs héros, leur créativité, leur fantasme aussi. Les GER, les groupes d'études révolutionnaires, ont formé des dizaines de futurs leaders à la prise de parole, à la dialectique, à l'analyse des rapports de force et à la puissance de l'histoire. Comment s'y retrouver dans la nébuleuse trotskiste, ces mots, ces concepts qui peuvent parfois virer au jargon excluant, pour pouvoir appréhender une bonne partie, par exemple, de ce qui se passe à gauche en ce moment? Il faut comprendre ce que fut le trotskisme et pourquoi ce mouvement, toujours minoritaire, toujours pourchassé, fut aussi une formidable machine de guerre culturelle pour la gauche mondiale. C'est l'objet de ce mois de mai trotskiste d'enquête de politique. 4 numéros, déjà tous disponibles en podcast, pour tout comprendre de la révolution permanente, de l'entrisme, du pablisme, du lambertisme et de bien d'autres termes encore qui traînent toujours dans le débat politique français. Franck Olivard est allé déterrer des archives, sépia, tragique ou étonnante. Christophe Imbert a mis tout ça en onde. Thierry Dupin a choisi les chansons. Sofiane Aktib est à la technique pour ses 4 émissions. Et Aurélie Marciro nous propose des livres pour aller plus loin. On va commencer par le début avec Jean-Jacques Marie, que je suis allé voir chez lui dans le 12e arrondissement de Paris, tout près de la Place de la Nation, point d'arrivée classique de bien des manifs auxquels il a participé. Jean-Jacques Marie est un vieux trotskard, comme on dit, de la branche OCI, vous allez comprendre au fil des épisodes. Il est historien aussi, biographe de Staline, Lénine, Trotsky. Jean-Jacques Marie, russophone, est sans doute aujourd'hui le plus ancien, il est né en 1937, le plus ancien des érudits de l'histoire du socialisme soviétique. Bonjour Jean-Jacques Marie.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Le sujet du jour, c'est le trotskisme. Avant que le mot trotskisme n'apparaisse, et vous nous direz comment et par qui, Trotsky en 1917, qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il a derrière lui?
Il a derrière lui une activité militante clandestine d'abord à partir de 1896, qui est modeste, bien entendu, comme au début, comme celle de tous les militants révolutionnaires à l'époque, puisqu'ils sont très peu nombreux dans un pays où il n'y a aucune liberté politique. Il faut se rappeler que dans la Russie tsariste, jusqu'en 1905, aucun parti politique ne peut exister. En 1905, il émerge, car il prend une part importante à la vague révolutionnaire qui va déboucher sur la création du Soviet de Saint-Pétersbourg, dont il est un moment président. Lorsque le premier président est arrêté, il le remplace. Il est arrêté d'ailleurs, lui, une semaine après. Et ce Soviet de Saint-Pétersbourg a joué un rôle très important dans la révolution, dans la mesure où il a été le premier organisme représentant des dizaines de milliers d'ouvriers dans la principale ville ouvrière de la Russie à l'époque. Et en même temps, à cette époque, se constituent des soviets ouvriers dans un certain nombre d'autres villes, plus de 50, et Trotsky avait proposé que soit tenu un congrès de tous ces soviets. Et évidemment, la police politique du tsar s'inquiète, il arrête Trotsky et la direction des soviets, du Soviet de Saint-Pétersbourg, avant que cette initiative ne puisse prendre corps, car elle aurait constitué un défi pour le pouvoir politique. Ensuite, Trotsky part en exil, en France, à Vienne, où il fonde un petit journal qui s'appelle La Pravda. C'est lui le premier fondateur de ce journal, qui sera ensuite repris par Lénine. Il sera ensuite en France, où il participera à la publication d'un journal publié en russe recto verso d'opposants à la guerre, car il caractérise, c'est le premier rapprochement sérieux avec Lénine, la guerre comme étant une guerre entre puissances capitalistes pour le partage de l'Europe et même plus largement du monde. Il sera expulsé de France pour cette raison en fin 1916, envoyé en Espagne, le gouvernement espagnol l'éjectera aux États-Unis, où il restera peu de temps puisque la révolution éclate en Russie en février 1917. Il essaie de rejoindre la Russie révolutionnaire, puis il est arrêté un moment par les Anglais, qui l'interne dans un camp au Canada, ce qui est une erreur de leur part, car il le met dans un camp de prisonniers allemands. Or, comme Trotsky parlait bien allemand, il adresse des grands discours enflammés aux prisonniers de guerre allemands, et il convainc un certain nombre d'entre eux que la révolution est une chose excellente. Donc il décide de s'en débarrasser. Finalement, il arrive à Petrograd, disons, au printemps 1917, et là, il va assumer un rôle dirigeant très vite.
Comment apparaît le mot trotskiste ?
Alors, le mot trotskiste a d'abord apparu avant la guerre de 14-18, où ça désignait, dans la bouche de Lénine, ceux qui étaient, comme Trotsky, pour l'unité de tous les courants de la social-démocratie russe, indépendamment, disons, de leur divergence politique.
Alors là, il faut juste faire un petit point. Quand on parle de social-démocratie russe ou allemande à l'époque, c'est pas les sociaux-démocrates, c'est pas des centristes particulièrement. C'est une...
Non.
Non, parce que les mots changent d'acception en politique, donc...
Vous avez raison, oui, bien entendu. Non, la social-démocratie de l'époque, ça n'est...
C'est pas Olof Palme.
Non, c'est pas Olof Palme, c'est pas Scholz, c'est pas Hollande, c'est rien de tout ça, non. C'est d'abord la première organisation politique de la classe ouvrière dans tous les pays du monde, dont, le maître à penser, c'est d'abord la social-démocratie allemande.
Et donc, le trotskisme désigne une stratégie d'unité.
Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, Lénine, à cette époque, le dénonce. Trotsky a comme idée fondamentale, si j'ose dire, il est pour l'unité de tous les courants de ce qu'on appelle le Parti ouvrier social-démocrate russe, alors que Lénine, lui, considère qu'il y a chez un certain nombre de courants de cette social-démocratie russe des tendances, disons, à l'opportunisme, c'est-à-dire à l'entente avec l'opposition, disons, démocratique bourgeoise au tsarisme, c'est-à-dire une opposition qui veut obtenir un certain nombre de concessions du régime tsariste, qui est un régime fondamentalement autoritaire et dictatorial, mais dont ils espèrent obtenir quelques aménagements, disons modestes, mais leur permettant d'avoir une activité politique officielle ou officieuse. Et Trotsky, lui, considère que l'unité de tous ces courants, il faut un seul parti ouvrier social-démocrate russe, parce que déjà... La classe ouvrière russe est très minime dans la Russie de l'époque. C'est 3 millions d'ouvriers et d'employés. C'est un pays essentiellement paysan. Et il se prononce pour l'unité de tous, considérant qu'il n'y a pas de raison de rompre. Et c'est cela qui manifeste les divergences avec Lénine, disons jusqu'au printemps 1917. Disons, c'est la révolution de février 17 qui va, en réalité, balayer ces divergences.
Lénine était le seul homme sur Terre à qui Trotsky se soumettait.
Elisabeth Poretsky, future compagne de l'agent des services secrets soviétiques Ignace Reis, était étudiante engagée dans la révolution à Petrograd en 1917. Elle raconte ses souvenirs de Trotsky ici en 1966.
Trotsky est un homme essentiellement aristocratique, seul. Pourquoi Trotsky n'a pas su se défendre? C'est que lui ne s'occupait jamais de soi-même. Des amis, il n'en avait pas. Parmi les ouvriers, on disait, bien que Lénine est un juif, Trotsky est un russe. C'est pour vous dire seulement qu'on avait besoin vraiment d'un Trotsky en ce moment-là.
Donc Jean-Jacques Marie, le trotskisme, à partir de 1923, change d'acception.
Oui, parce qu'à partir de 23, c'est-à-dire à partir du moment où le mouvement vers la révolution européenne, voire mondiale, commence à refluer, avec l'échec de la révolution allemande en octobre 1923, à partir de ce moment-là, apparaissent en Union soviétique une divergence entre deux courants qui vont se distinguer de plus en plus avant de s'affronter, y compris de façon extrêmement brutale, à savoir ceux qui pensent qu'il faut toujours fonder le développement de la Russie soviétique sur les perspectives de la révolution, et ceux qui pensent que, comme Staline et son et l'appareil qui se constitue derrière lui, que tout ça, ça appartient au passé, qu'il y a de quoi construire le socialisme dans un seul pays, c'est la théorie que professe Staline dès décembre 1924, avant d'affirmer en 1926 que l'URSS a tout ce qu'il faut pour construire le socialisme complet et total, quoi qu'il se passe dans le reste du monde. Donc la question qui se pose en 1923 est la suivante pour Trotsky et pour les autres. Est-ce que la défaite de la révolution allemande signifie que la perspective de la révolution dans d'autres pays est liquidée? Ou bien est-ce qu'elle est toujours valable? Trotsky pense qu'elle est toujours valable. Et en fait, si on regarde la suite de l'histoire, le monde va être encore confronté à une vague révolutionnaire, plus modeste bien entendu qu'en 19, 20, 21, 22, 23, mais jusqu'en 36, 37.
Thomas Legrand.
Enquête de politique, premier épisode de 4 numéros d'enquête de trotskisme. Et là, Jean-Jacques Marie, est-ce qu'on peut résumer pour comprendre la spécificité trotskiste que dans ce contexte que vous venez de nous décrire, Trotsky voudrait pousser ses révolutions pour une révolution globale, une révolution permanente, on ne prononce pas encore ce terme, vous allez nous l'expliquer, alors que Staline, déjà, voudrait concentrer ses forces à consolider une URSS socialiste nationale et ne pas s'occuper du reste du monde, quitte même à passer quelques accords avec des gouvernements bourgeois occidentaux pour consolider sa Russie soviétique.
Mais l'objectif de la révolution, au moins européenne sinon mondiale, c'est un objectif indispensable pour eux, à tel point qu'en mars 1919, ils proclament la création de l'international communiste, ou comme on dit souvent par les termes russes, Comintern, dont l'objectif est d'étendre la révolution au reste du monde, et donc d'organiser à cette fin des partis dans les différents pays qui auront comme objectif d'aider à la révolution dans leur propre pays. Et celui qui naît le plus tôt va d'ailleurs être soumis immédiatement à une épreuve terrible, c'est le Parti communiste allemand qui est proclamé le 31 décembre 1918, dont les deux principaux dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, sont assassinés dès le 15 janvier 19. Le PC français naîtra en décembre 1920 seulement. Ces partis communistes sont, disons, un peu en retard sur le mouvement qui existe dans ces pays et qui est parfois d'une très grande envergure. Et c'est très frappant d'ailleurs dans un comité central. En 1926, je ne me souviens plus du mois, Trotsky dit « Le salut de notre révolution dépend de l'avancée de la révolution mondiale ». À ce moment-là, les membres du comité central éclatent de rire.
Ils éclatent de rire parce qu'ils n'y croient pas une seconde ou parce que pour eux, c'est plus le problème?
Ils n'y croient pas une seconde. C'est comme de la propagande, ce sont des mots. Staline, lui, il s'intéresse surtout à des questions immédiates. C'est à partir de 1923 qu'il définira une conception particulière qui reçoit le nom de socialiste dans un seul pays, mais qui, en fait, sous le mot socialiste, cache autre chose, qu'il a déjà commencé à définir dès juin 1922, lorsque il profite de la maladie de Lénine en juin 22 pour prendre une mesure très caractéristique de ses soucis politiques. Il décide d'accorder à 15 000 membres de l'appareil du parti des avantages matériels précis. Ces 15 000 personnes reçoivent, premièrement, tous les mois, un colis comprenant des produits déficitaires dans la Russie soviétique de l'époque. Lénine apprend que c'est en 1920, que le soviet Moscou, dirigé par les communistes, attribue les logements disponibles à Moscou, il n'y en a pas beaucoup à l'époque, uniquement à ses copains, aux copains des membres du soviet. Alors, il envoie une lettre furieuse à Molotov et à Staline en disant « Il faut pendre ces criminels communistes ». Évidemment, Molotov et Staline n'en font rien. Enfin, quand il dit « Il faut pendre », il faut bien dire que très souvent, Lénine utilise, l'exagération.
Les fameuses hyperboles de Lénine.
Les fameuses hyperboles de Lénine qu'il ne faut pas utiliser, prendre ensuite au pied de la lettre, sinon on ne comprend plus rien. Par exemple, quand il décide de passer à la nef et de supprimer les réquisitions de récolte chez les paysans, il pose la question, il y a 60 000 fonctionnaires chargés de réquisitionner ces récoltes. Et dans son carnet, il met « qu'en faire ?» Les fusillés, pour l'interrogation. Bien sûr qu'il ne pense pas en fusiller un seul. Il n'en fusillera pas un seul.
Non, Lénine parle comme ça et agit peu. En tout cas, il n'a pas les moyens. Staline parlera beaucoup moins et agira beaucoup plus.
Il parlera fort peu, c'est sûr. Cette mesure-là, avec des 15 000 permanents, c'est le début organique, disons, formalisé, d'un système qui va donner naissance à, non pas à la bureaucratie qui commence à exister déjà, mais comme corps organisé, qui va utiliser la situation existante pour entasser des privilèges de plus en plus importants au fil des années de ce qu'on appelle le socialisme d'un seul pays. Qui n'a de socialisme que le nom, sauf qu'il repose sur le fait qu'il n'y a pas de propriété privée des moyens de production.
On continue à explorer les débuts du mot trotskisme avec l'historien du socialisme trotskiste lui-même, Jean-Jacques Marie.
Enquête de politique sur France Inter.
Dès janvier 25, Trotsky est contraint à démissionner de son poste de commissaire du peuple à la guerre. Trotsky est à ce moment-là isolé dans l'appareil. Poussé à la démission, il organise avec Kamenev une opposition dite unifiée, qui en particulier manifeste son opposition à Staline à cause de sa position face à la révolution qui monte en Chine. Vous avez à ce moment-là une révolution qui monte en Chine réellement. Aurait-elle triomphé, ça on sait rien, c'est évident.
Staline, encore une fois, est contre...
Il est contre. Voilà. Mais dès cette époque-là, pour lui, l'objectif, c'est d'avoir une Union soviétique qui garde le nom de socialiste.
Une sorte d'empire socialiste, avec le nom socialiste encore, mais une sorte d'empire russe...
D'empire russe prolongé. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas de grands propriétaires privés, il n'y a pas de banquiers...
Voilà. On oublie l'objectif de la révolution mondiale, ce que Trotsky n'oublie pas.
Trotsky n'oublie pas, il considère qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour une raison toute simple, c'est qu'il considère que s'il n'y a pas de révolution, on va inévitablement vers une deuxième guerre mondiale, qui sera encore plus barbare et destructrice que la précédente, ce qui sera tristement vérifié d'ailleurs. Alors il est d'abord exclu du comité central, puis exilé dans le sud de l'URSS à Alma-Ata, et puis comme Staline considère que même en restant...
Ça ne suffit pas.
En URSS, ça ne suffit pas parce qu'il correspond avec tous ses copains en URSS, qui sont exilés dans des endroits différents. Ah, bien sûr, toute sa correspondance est lue par la police politique, mais n'empêche... Elle arrive au mec, donc il est un centre d'organisation de milliers d'opposants qui sont déportés, mais c'est pas encore le goulag, ils sont déportés dans ce qu'on appelle des isolateurs politiques. Le goulag, c'est le travail forcé, c'est un peu plus tard. Donc Staline décide qu'il faut se débarrasser de lui.
17 janvier 1928.
Léon Davidovitch, c'est le GPO.
Je refuse d'ouvrir la porte. Ma déportation est illégale.
J'ai ordre de vous emmener de force. Ne m'obligez pas à prendre des mesures extrêmes.
Je n'ouvrirai pas la porte.
Léon Davidovitch, tu ne me reconnais pas. J'étais avec toi dans ton train blindé en 1919.
Bien sûr.
Léon Davidovitch, pardonne-moi.
Allons, Ivan Sergeyevitch. Tu es un soldat du GPU. Tu dois exécuter les ordres que tu as reçus. De toute façon, je refuse de partir. Je refuse même de m'habiller.
Allez, habille-la.
Bien, va.
Il le chasse. Trotsky pense qu'il va y avoir, ça va se développer dans une classe ouvrière soviétique qui va être complètement bouleversée, constituée à partir de 1929, de milliers de paysans chassés par la collectivisation très brutale. Donc une classe ouvrière envoyée au boulot dans des conditions d'ailleurs sans formation souvent, qui va se traduire par des catastrophes innombrables, que Staline traduira en sabotage. C'est-à-dire, dès qu'un ouvrier rate quelque chose, c'est un sabotage. Et ce sabotage est organisé par les trotskistes.
Trotsky devient l'ennemi et le trotskisme devient l'idéologie la pire.
L'idéologie la pire parce que, si vous voulez, elle offre une issue. Bon, une issue à laquelle on peut croire ou ne pas croire. En disant qu'il y a une solution au problème auquel nous sommes confrontés, c'est d'aider les ouvriers, enfin, ou les partis communistes des grands pays, à parvenir à renverser leur bourgeoisie. Or, la politique de Staline, c'est exactement l'inverse. C'est s'entendre avec la bourgeoisie des principaux pays pour essayer de passer avec eux un accord. D'abord, cet accord lui permet pendant quelques années d'acheter des machines à l'étranger dont il a besoin pour l'industrialisation. Et ça mènera, d'ailleurs, ce genre de déclaration mènera à ce que peu après la prise du pouvoir par Hitler, Molotov déclarera publiquement qu'on a toujours voulu avoir de bons rapports avec le gouvernement allemand. Donc c'est une ligne de plus en plus, disons, caractéristique de la politique stalinienne, remplacer le soutien, pas forcément de l'État, mais de l'international communiste, par un accord avec le gouvernement, leur gouvernement bourgeois. C'est encore plus frappant en Espagne. Son objectif en Espagne, il fait la chasse aux anarchistes parce qu'il veut démontrer au gouvernement français et anglais sur l'appui desquels il compte que le Parti communiste espagnol n'a nullement comme objectif de mettre fin à la politique privée et à une production et qu'il est pour le respect de la loi, etc., etc., etc. Et donc, quiconque avance des mots d'ordre qui sont un peu différents doit être liquidé. Et comme vous avez un parti qui avance des mots d'ordre un peu différents, qui est le POUM, dirigé par un ancien trotskiste, qui s'appelle André Ounine, on qualifie ce parti de parti trotskiste, ce qu'il n'est pas d'ailleurs, et quand vous avez une tension sociale à Barcelone, on arrête le dénommé Nin, l'installe dans une petite prison, on le torture pour lui faire avouer que c'est un agent nazi. Pendant ce temps-là, le PC espagnol écrit des petites affichettes qui sont affichées un peu partout. Où est André Nin ? Il est à Berlin. Les anarchistes qui, en Catalogne, nationalisent les terres distribuées aux paysans doivent être rejetés. Ils seront rejetés, d'ailleurs.
Maintenant, il ne reste personne. Il ne reste qu'à dialoguer avec les journaux, c'est-à-dire à travers les journaux, avec les faits et les opinions.
Lecture, extrait du journal d'exil de Léon Trotsky en 1935.
Et pourtant, je crois que le travail que je fais en ce moment est le travail le plus important de ma vie. Plus important que 1917, plus important que l'époque de la guerre civile, etc. Si je n'avais pas été là en 1917 à Pétersbourg, la révolution d'octobre se serait produite. On peut en dire autant, somme toute, de la guerre civile. Tandis que ce que je fais maintenant est, dans le plein sens du mot, irremplaçable. Munir d'une méthode révolutionnaire la nouvelle génération, par-dessus la tête des chefs de la deuxième et de la troisième internationale, c'est une tâche qui n'a pas, hormis moi, d'homme capable de la remplir. Il me faut encore au moins quelques 5 ans de travail ininterrompu pour assurer la transmission de l'héritage.
Enquête de politique, premier épisode de 4 numéros d'enquête de trotskisme. On poursuit l'histoire de ce mot et de ce concept avec un ancien trotskiste. Ah, les anciens trotskistes, c'est une sorte de confrérie un peu disloquée. Ils se reconnaissent, ils s'appellent par leur nom d'emprunt de l'époque et ils sont souvent devenus des modérés de la gauche, parfois même du centre droit. Mais ils ont en commun d'être entrés en politique par la passion et par la révolte. Nous en rencontrerons beaucoup dans cette série. Et parmi eux, Didier Lesky, aujourd'hui préfet. Auteur prolifique sur les questions d'immigration et d'islam, et plus en rapport avec notre sujet de « Quand les lycéens prenaient la parole » aux éditions Sileps. Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Alors, vous allez nous aider, Didier Lesky, s'il vous plaît, à nous y retrouver dans la galaxie trotskiste, un monde, un petit monde en réalité, mais qui a eu une grande influence sur l'ensemble de la gauche française depuis les années 60-70. Vous êtes préfet, vous êtes directeur de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes un spécialiste aussi de la laïcité, vous êtes connu pour ça. Vous êtes aussi historien. On vous avait d'ailleurs interviewé à propos du Parti social français du colonel Delarocque dans un précédent numéro d'enquête de politique. Et politiquement, vous avez été une figure du chevènementisme, mais comme de nombreux responsables politiques français, vous avez un passé trotskiste. Et quand on regarde votre biographie de jeunesse politique, eh bien, elle en dit long sur ce que représente le trotskisme et sur son côté incompréhensible pour le commun des mortels. Alors, je lis un extrait de votre fiche Wikipédia et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Après le mouvement lycéen de 1973, Didier Leski adhère à l'organisation communiste révolutionnaire. Scission de la Ligue communiste trotskiste, cette organisation va en 77 fusionner avec une organisation issue du PSU, la Gauche ouvrière et paysanne, pour fonder l'Organisation communiste des travailleurs. L'OCT hostile à ce regroupement avec quelques militants de l'OCT. Il rejoint les comités communistes pour l'autogestion, résultat de la fusion entre un courant de la LCR et la tendance B du PSU constituée par l'AMR, l'Alliance marxiste révolutionnaire. C'est absolument opaque pour le commun des mortels. Alors Didier Leski, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à se pencher sur le trotskisme pour que nos auditeurs, après avoir entendu cette litanie rebutante et même intimidante, ne préfèrent pas se dire « tiens, je vais passer sur Rire et Chanson aujourd'hui ».
Le trotskisme, c'est d'abord l'idée qu'il fallait maintenir le souvenir de la Révolution russe, avec la figure de Léon Trotsky, qui était un des principaux artisans de la Révolution russe en 1917, qui rejoint à ce moment-là du reste Lénine, puisque avant cette période, il est séparé politiquement de Lénine. Et puis, il va être le principal organisateur de l'armée rouge, qui va permettre de battre les contre-révolutionnaires, ce qu'on appelle les Blancs. Et puis, après 1924-1925, c'est-à-dire après sa défaite politique face à Staline, Trotsky et le trotskisme, c'est l'idée de ne pas être effacé de la photo du mouvement révolutionnaire, tout en gardant l'idée que la révolution a été un moment important de l'histoire du mouvement ouvrier, la révolution russe, et donc il fallait en maintenir le souvenir tout en critiquant sa dérive stalinienne. C'est ça, fondamentalement, le trotskisme. Après, ce sont des militants qui, pour beaucoup, ont participé à l'ensemble des luttes sociales des années 30, 36, bien sûr, 1947, la grève des ouvriers de Renault, et puis après, tous les combats anticoloniaux, et pour certains d'entre eux, qui ont participé activement à tout ce qui est issu de mai 68. D'abord, il y a un rôle joué important au moment de mai 68, avec d'autres qui ne sont pas trotskistes, comme les anarchistes ou qu'on appelle les maoïstes, mais surtout, eh bien, pour certains d'entre eux, il y a cette idée que le mouvement des femmes, c'est important, et d'autres mouvements sociétaux, avec déjà un discours sur la convergence des luttes qu'on entend aujourd'hui beaucoup, entre ce qu'on appelle le mouvement ouvrier et puis ces nouveaux mouvements sociaux.
Alors là, vous venez en quelques phrases de balayer toute l'histoire du trotskisme. Alors on va détailler quand même et revenir à 1917. Donc Léon Trotsky est un révolutionnaire quasiment professionnel, c'est-à-dire qu'il est en exil avant 17. Il y a eu 1905, tentative de révolution. Après, il est en exil dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis.
Trotsky est une grande figure avant 1917, d'abord parce qu'il a été le président du Soviet de Petrograd en 1905. Et puis surtout parce qu'il a mené une bataille politique assez dure contre Lénine, au moment où Lénine théorise la formation des communistes comme une armée disciplinée.
Ils n'avaient pas la même conception de la révolution.
Au départ, ils n'ont pas la même conception de la révolution. Et surtout, il y a déjà à l'époque, et ça va le desservir dans la bataille avec Staline, eh bien une remise en cause du mode d'organisation léniniste, avec des critiques qu'il va partager avec Rosa Luxembourg, qui est une autre figure du mouvement socialiste à l'époque, en Allemagne. Et en fait, il va rester à l'écart, et puis en avril 1917, c'est-à-dire avant la révolution, il sent la poussée révolutionnaire, et Lénine lui-même essaye de convaincre l'ensemble de ses camarades que c'est le moment d'y aller. Trotsky le soutient et va devenir un des principaux organisateurs de la révolution, et va à ce moment-là rejoindre le parti de Lénine, les bolcheviks, comme on dit. Et puis après, il va essayer de se maintenir comme figure importante.
Alors d'abord, il va créer l'armée rouge.
Il va bien sûr créer l'armée rouge avec en particulier l'utilisation des trains qui vont rester célèbres.
Les trains blindés.
Trotsky est un organisateur hors pair, quelqu'un d'assez dur en réalité dans les rapports humains.
Camarades, soldats de l'armée rouge.
Léon Trotsky, créateur et chef de l'armée rouge, document de 1918.
D'un côté se trouvent les troupes tsaristes qui apportent la misère et la persécution aux classes pauvres. De l'autre, les troupes rouges qui apportent la libération. Malheur au soldat qui ne comprend pas la signification de sa lutte et ignore son devoir. Mais le soldat de l'armée rouge, qui défend bravement les droits et les intérêts des pauvres, sera glorifié par les masses laborieuses.
C'est là que c'est intéressant parce que il crée l'armée rouge, il défend la révolution parce qu'on est en pleine guerre civile. Et ce que vous nous avez décrit du trotskisme, de l'histoire du trotskisme en quelques phrases tout à l'heure, on voit bien que c'est quelque chose d'ouvert sur la société, les nouvelles luttes. Mais Trotsky, au départ, c'est un organisateur et c'est un dur.
D'abord, Trotsky, il a une formation intellectuelle qui est liée à son milieu familial. Ce sont des juifs d'origine ukrainienne. Il a voyagé, il connaît le monde, contrairement par exemple à Staline. Il a une très grande connaissance de la littérature française par exemple. Il parle plusieurs langues, l'allemand, le russe bien sûr, le français, l'anglais. Il va même aller jusqu'aux États-Unis. Par exemple, en matière d'art, il va avoir une collaboration intellectuelle avec André Breton.
On le verra plus tard, voilà. C'est vrai. Non, mais c'est justement ce contraste que je voulais souligner. Il y a toute cette ouverture et cette culture, mais puisqu'on est en 1917 et dans les années qui suivent la guerre civile, il faut rappeler quand même que c'était un militaire, enfin un stratège, il n'était pas militaire, mais un stratège intraitable. Par exemple, il a maté le mouvement anarchiste en Ukraine de Makhno, sans pitié.
Vous avez raison de dire
anarchiste ukrainien, Makhno.
Trotsky était quelqu'un d'extrêmement dur dans le combat politique. Et toute sa vie, il restera très dur avec cette idée qu'il y a des principes. Et à partir du moment où quelqu'un remet en cause le principe, il faut immédiatement rompre avec lui.
Oui, je voulais poser cette base tout de suite parce que dans le reste de notre conversation, on va s'apercevoir que Trotsky et les trotskistes sont souvent vus comme des victimes. En tout cas, ils sont oppressés plus qu'oppresseurs. Mais au départ, il y a ce moment-là. C'est tout ce que je voulais souligner. Est-ce que c'est
vrai ? Par exemple,
Trotsky
va être en charge de la France, de la section française de l'Internationale communiste au moment où elle se crée en 1920 après le congrès de Tours. Et les consignes qu'il donne aux dirigeants communistes qui sont issus du monde socialiste, et par écrit, il leur dit, il faut rompre avec toute la société bourgeoise, avec vos anciennes connaissances, avec toute la sociabilité, parce que vous devez être des bolcheviks intransigeants. Et c'est vrai que Trotsky, entre 1917 et je dirais 1927-1928, c'est quelqu'un d'extrêmement dur autour de ces questions.
Son prestige était comparable à celui de Lénine. D'ailleurs, on ne les dissociait pas.
Témoignage en 1965 pour France Inter de Marcel Body, ancien membre de la mission militaire française en Russie en 1917. Il évoque la progressive mise à l'écart de Trotsky.
La foule ne connaissait en somme que deux hommes, Lénine et Trotsky. Par la suite, j'ai appris dans les hautes sphères du parti que son passé menchébique, le fait qu'il soit venu très tard au parti, à la fraction de Lénine, crée un certain handicap pour lui. Et que tous ces vieux militants, tous ces vieux conspirateurs qui formaient le parti autour de Lénine n'oubliaient pas ce passé.
Vous avez l'impression que dès 1918 ou 1919, à certains égards, il était presque un isolé dans les hautes sphères du parti.
Je ne voudrais pas employer un terme aussi fort, dire qu'il était un isolé, mais qu'il était un surveillé, le mot me paraît parfaitement adapté à la chose.
Enquête de politique sur le trotskisme, premier épisode, on retrouve Didier Lesky. C'est la figure de Staline qui prend le pouvoir, c'est son face-à-face avec Staline qui va vraiment révéler le trotskisme, leur différent sur ce que doit devenir la révolution.
Ce face-à-face, il est à la fois organisationnel et culturel. C'est deux personnages totalement antinomiques entre quelqu'un qui, au fond, n'est jamais sorti de la Russie, qui est très en phase, d'une certaine manière, avec la société russe dans ce qu'elle peut avoir de rustre, et quelqu'un qui a une certaine élégance intellectuelle et qui donc manie les concepts. Et il y a une différence. Quand on lit, par exemple, les écrits de Staline et quand on lit les écrits de Trotsky, on sent bien qu'il y a un monde, si vous voulez. Et en plus, Staline va utiliser les origines juives de Trotsky pour mener une campagne extrêmement virulente dans une Russie où l'antisémitisme est extrêmement fort.
Qu'est-ce qui les oppose, alors, théoriquement? Il y a d'abord l'internationalisme.
Ce qui les oppose fondamentalement, c'est cette idée que la révolution ne peut pas tenir sur la seule Russie. Trotsky, de ce point de vue, vue-là, est un Européen. Hein, et il regarde vers l'Ouest et il dit « La révolution ne peut pas tenir si l'Allemagne ne rentre pas en révolution. S'il n'y a pas d'extension de la révolution, eh bien, celle qu'on a faite en Russie, d'une certaine manière, ne tiendra pas. »
Dans les années 20, la révolution n'a pas lieu en Allemagne. C'est un échec.
C'est un échec terrible.
D'ailleurs, Staline en est un peu la cause aussi.
C'est un échec terrible sur la longue durée. D'abord, la révolution allemande est assassinée au sens propre du terme avec l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Hein. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-1919. Ils avaient été violemment opposés à la guerre et au nationalisme allemand. On va avoir du reste après cette montée de l'antisémitisme et du nationalisme allemand dans la première étape et l'assassinat de Rathenau, le ministre des Affaires étrangères, qui était l'ami de Stefan Zweig et d'autres. Et puis surtout, on va avoir cette domestication du Parti communiste allemand et des communistes allemands et qui va aboutir à ce tragique qui est de prioriser la lutte contre les socialistes allemands jusqu'à faire des alliances avec les nazis, parce que on les considère comme plus dangereux que les nazis, et ça va aboutir à la victoire d'Hitler en 1933, et c'est là où Trotsky dit, eh bien maintenant, la troisième internationale, l'internationale communiste, est définitivement morte, il faut en construire une quatrième, parce que Staline a complètement fait dégénérer le mouvement communiste.
Alors juste avant de parler de la quatrième internationale, qui sera créé en 1938. Un autre point qui différencie et qui oppose Staline et Trotsky, c'est la bureaucratie.
Bien sûr, c'est la bureaucratie au sens où...
Ce mot apparaît à ce moment-là d'ailleurs.
Oui, à partir de 1922, 23, 24, il y a une dévitalisation de la révolution qui est née en 1917, avec d'abord les effets de la guerre civile, c'est-à-dire la disparition de fait de la classe ouvrière, le peu qu'il y avait, les usines eh bien sont vides d'ouvriers qui sont partis pour beaucoup au front, qui ont été le fer de lance de la lutte des bolcheviks contre les blancs, et apparaît une adhésion à une nouvelle couche dans la société autour de l'économie planifiée, des nationalisations, qui n'a pas l'antériorité militante et qui va se constituer en bureaucratie. Et c'est sur cette bureaucratie que va s'appuyer Staline pour éliminer Trotsky et ses camarades, mais dans un drame perpétuel, puisque...
Il est écarté petit à petit.
Oui, avec des renversements d'alliances, Zinoviev, Boukharine, enfin d'autres dirigeants de la Révolution vont s'allier à Staline pour éliminer Trotsky. Trotsky lui-même fait pas toujours les bons gestes, et puis quand les autres vont s'apercevoir qu'en réalité, Staline est un sanguinaire qui ira jusqu'au bout, il est trop tard, il va y avoir les procès de Moscou, ils vont faire des mea culpa, et certains vont suicider.
Et Lénine tombe malade et meurt, donc Trotsky n'a même plus cet allié.
Lénine, avant de mourir, puisque en fait il est malade bien avant sa mort, hein, il essaye de constituer une alliance avec Trotsky parce qu'il commence à comprendre, et c'est le testament qu'on aura de Lénine et qui apparaîtra beaucoup plus tard, que Staline est en train de monter une machine qui va subtiliser l'élan révolutionnaire pour constituer cette bureaucratie et commencer à éliminer toute opposition et toute démocratie interne.
Le procès que m'attend Staline est bâti sur de faux témoignages obtenus par la torture et par des méthodes dictatoriales.
Léon Trotsky, depuis son exil à Mexico, commente les procès staliniens en 1936.
L'histoire ne connaît pas de crime plus terrible que les procès de Zinoviev et de Kamenev, de Petrokov et de Radek à Moscou. Ces procès ne sont pas le fait du communisme, ils ne sont pas le fait du socialisme, mais bien du stalinisme, c'est-à-dire du despotisme irresponsable d'une bureaucratie qui écrase le peuple.
Didier Lesky.
Sachant quand même qu'il y a une impasse, qui est celle de Trotsky à l'époque, comme celle de Lénine, cette impasse, c'est la question démocratique. Puisque, en fait, Lénine lui-même, comme Trotsky, ils vont admettre cette idée que les partis qui sont en opposition, mais qui ne sont pas le parti bolchevique, eh bien, on peut les interdire. Et même, à un moment donné, les courants internes au parti bolchevique, comme l'opposition ouvrière, qui dit, bah, attention, on peut pas faire n'importe quoi avec les ouvriers, on peut pas militariser les syndicats comme ça, on va finir par les interdire. Et les batailles, à ce moment-là, sont extrêmement vives.
Oui, parce que quand on oppose le caractère totalement dictatorial et implacable de Staline à un Trotsky qui serait démocrate, c'est un peu abusif, parce que Trotsky était pour la démocratie à l'intérieur d'un parti unique. Donc c'est une impasse intellectuelle, de toute façon.
Le rapport de Trotsky à la démocratie, il va évoluer. C'est après les procès de Moscou qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui était vicié. Et dans un de ses derniers livres qui s'appelle « Défense du marxisme », il va essayer de réintroduire cette idée que la démocratie est quelque chose de fondamental si on veut faire aboutir un projet de société qui soit un projet émancipateur. Et ça va être du reste une discussion qui va se prolonger à l'intérieur du mouvement trotskiste pendant des années. Et on peut dire que cet héritage autour de la démocratie qui n'est pas le meilleur, eh bien, va être partagé malheureusement par certaines organisations trotskistes peu démocratiques.
Oui, on le verra un peu plus tard. Donc, les procès de Moscou dans les années 30, Trotsky, bien sûr, n'est plus du tout en Russie, il est exilé, et il fonde, en 38, la 4e internationale. Expliquez-nous, Didier Leschi.
Oui, en 1938, après une longue gestation, parce que pendant très longtemps, le terme même de trotskisme est un terme inventé par Staline.
Oui, c'est un terme infamant.
C'est un stigmate, comme le disent certains sociologues. Eh bien, on va essayer de retourner le stigmate et puis on va s'assumer comme trotskiste. Mais les trotskistes s'appellent d'abord bolcheviques-léninistes. C'est-à-dire qu'ils essayent de reprendre les deux termes qui sont, à l'époque, les termes les plus connu et valorisant au sein du mouvement communiste, bolchévique et léniniste.
Parce qu'aujourd'hui, quand on dit bolchévique, léniniste, c'est pas très positif. Quand on dit trotskiste, ça peut être un peu plus signe d'ouverture par rapport au reste du mouvement socialiste. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut se remettre dans ce contexte, c'était différent. Et d'ailleurs, le stigmate trotskiste était utilisé pendant les procès de Moscou pour désigner toutes sortes d'horreurs inventées par Staline.
Le stigmate trotskiste, il va être utilisé dans le mouvement communiste stalinien pendant très longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, 60, Tito va être accusé de trotskisme dans le mouvement communiste ou à la CGT, par exemple, pendant très longtemps, être accusé de trotskisme.
C'était
l'exclusion, au mieux, si on ne se faisait pas casser la gueule, et à une certaine époque, on se faisait assassiner.
Bien sûr, dans les années 50, c'est arrivé, même en France. Donc, 38, la 4e internationale.
38, la 4e internationale. Donc, la 4e internationale, elle vient après plusieurs catastrophes qu'a connu le mouvement socialiste et le mouvement ouvrier, en particulier en Europe, entre 1927 et 1938.
Dear comrades,
chers camarades,
10 years were necessary for the Kremlin.
10 ans ont été nécessaires à la clique du Kremlin pour étrangler le parti bolchevique et transformer le premier État ouvrier en une sinistre caricature.
Léon Trotsky, 1938, discours à Coyoacán, au Mexique, à propos de la 4e internationale.
10 ans ont été nécessaires à la 3e internationale pour jeter dans la boue son propre programme et se transformer en un cadavre puant. 10 ans.
Only 10 years.
10 ans seulement.
Permit me to finish with a prediction.
Permettez-moi cette prédiction.
During the next 10 years.
Au cours des 10 prochaines années.
The program of the fourth international will become.
Le programme de la 4e internationale deviendra le guide de millions de révolutionnaires qui sauront prendre d'assaut la terre et le ciel.
C'est l'échec de la Révolution espagnole, avec cette attitude de Staline qui est d'essayer de la maîtriser, quitte à assassiner anarchistes, trotskistes, etc. Et puis, la catastrophe allemande, c'est-à-dire le fait que au sein de l'internationale communiste, eh bien, personne ne réagit à cette absurdité qui a été de privilégier la lutte contre les socialistes plutôt que de privilégier la lutte contre le nazisme, puisque la doxa à l'époque de l'internationale communiste, c'est de dire que l'arrivée d'Hitler, ça sera un épiphénomène et que le vrai danger, c'est la social-démocratie. Et donc, Trotsky dit, après tout ça, rien n'est redressable, et il le dit d'autant plus qu'à ce moment-là, ses partisans en Union soviétique sont décimés, assassinés, et sa famille elle-même pourchassée, etc.
France Inter, en quête de politique.
On retrouvera Didier Lesquille la semaine prochaine parmi d'autres invités et d'autres archives pour continuer à explorer l'histoire de cet isme si influent sur la politique française jusqu'à aujourd'hui, alors que Léon Trotsky est mort en 1940. Et justement, la mort de Trotsky, il en est question dans le livre que vous allez nous présenter, Aurélie Marcirot. Bonjour d'abord Aurélie.
Bonjour Thomas.
Et Aurélie, donc cette semaine, un roman paru en 2011, L'homme qui aimait les chiens, de Leonardo Padura.
Oui, c'est un grand livre, vraiment un grand livre, prix des libraires à sa sortie. Cette fresque qui traverse le XXe siècle est d'abord une enquête, Thomas.
Sur Trotsky.
Oui, sur le vieux, comme on l'appelait, mais également sur son assassin, le catalan Ramon Mercader, qui le tua au Mexique d'un coup de piolet le 20 août 1940. Un crime préparé depuis des années par les services secrets russes à la demande de Staline. Alors cette enquête met en scène également le narrateur, un écrivain cubain qui rencontre sur une plage en 77 un promeneur qui décide de lui raconter Ramon Mercader. Cet homme qui se balade accompagné de ses chiens, d'où le titre du livre, est-il ou non le meurtrier de Trotsky? Je ne vous dis rien. Mais à travers ce livre, ce sont trois visions de l'idéologie communiste au siècle dernier qui se croisent.
Lesquelles?
Alors il y a d'abord celle de Léon Trotsky que l'on suit dans ses exils, successivement expulsé de Turquie, de Norvège et de France. Le fondateur de l'armée rouge trouve refuge au Mexique. La peur, pour lui et surtout pour les autres, est constante. Sa famille décimée au fur et à mesure, ses amis politiques éliminés les uns après les autres. La grande victoire de Staline était d'avoir fait de la voix de Trotsky l'incarnation de l'ennemi interne de la Révolution, de l'héritage léniniste, de l'avoir cloué au pilori grâce à la propagande d'un système que Trotsky en personne avait contribué à créer, écrit Padura. Alors on sent au fil des pages l'étau qui se resserre sur l'exilé, tout en l'imaginant travailler sans cesse, essayant de mobiliser ou encore flirter avec Frida Kahlo. Alors parallèlement, on suit Mercader, depuis la guerre d'Espagne, où déjà s'opposent trotskistes et soutiens de Staline. Mercader, choisi pour cette mission quasi sacrée, tuer le maître, sera formé en Russie avant de mener sa mission sous le nom de Jacques Mornard. Ce soldat de Staline dira avoir entendu jusqu'à sa mort le cri de Trotsky lorsqu'il l'a frappé. Avant de s'engager, sa mère, qui a un rôle très important, lui dit « C'est facile de se battre, de mourir aussi, des milliers de gens le font, mais serais-tu capable de renoncer à tout ?» à toute ambition, à tout scrupule, à être toi-même. Et puis le narrateur, Yvan, écrivain un peu raté, englué dans un Cuba aux prises avec les restrictions, les absurdités et sa vision, disons, très encadrée du communisme. Ces trois récits mêlés narrent, je cite, une histoire effroyable de haine, de tromperie et de mort.
Et comment est né ce livre?
Alors tout a commencé en 89, l'année où le mur s'effondre, quand l'auteur visite au Mexique la maison des Trotsky. 15 ans plus tard, entré dans le 21e siècle et l'URSS enterrée, il a voulu, je cite, « se servir de l'histoire de l'assassinat de Trotsky pour réfléchir à la perversion de la plus grande utopie du XXe siècle, dans laquelle beaucoup s'engagèrent, perdirent leurs illusions, espérances, leur temps et certains leur vie ». Je vous signale, Thomas, qu'il existe également un documentaire très bien qui raconte cette histoire, « Léon Trotsky, l'homme à abattre » sur Arte et LCP.
Et merci Aurélie, à la semaine prochaine pour un autre livre sur le trotskisme, parce que la semaine prochaine, on continue, et d'ailleurs, nous sommes en quête de trotskisme pendant tout le mois de mai, et on va remonter le temps jusqu'à aujourd'hui, avec quelques petites pépites archivesques et des histoires politiques, bien sûr, mais aussi humaines et romanesques. Tout est d'ailleurs déjà en podcast. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.